rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Au rendez-vous de midi, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi.
Bonjour, pour cette émission du rendez-vous de midi du mois de février, deux entretiens passionnants. Tout d'abord, un premier entretien avec le musicien tunisien Anouar Brahem à l'occasion de la parution de son nouvel album chez le label ECM. Un entretien mené par Hugues Blondet, enregistré récemment à Paris. Puis, dans un deuxième temps, séquence littérature et débat d'idées, un entretien mené par Thierry Fabre avec José Lanzini, l'auteur d'une fiction récemment parue aux éditions Actes Sud dans la collection Bleu, un ouvrage qui s'appelle « Les derniers jours d'Albert Camus ». La collection Bleu, dirigée par Thierry Fabre, s'inscrit dans la continuité du travail éditorial de la revue La Pensée de Midi. Mais écoutons tout d'abord Anouar Brahem.
Bonsoir, monsieur Brahem. Le dernier album s'appelle « Ça se tourne une Eyes of Rita »,« Tout sous la vie ».
Le titre de l'album fait référence à un poème de Mahmoud Darwish. En fait, quand j'ai composé la musique, j'ai pas particulièrement pensé à Mahmoud Darwish, mais c'est juste un mois peut-être avant l'enregistrement que j'ai appris la nouvelle de sa mort, qui m'a beaucoup attristé, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'aime beaucoup, et qui est un poète très respecté dans le monde arabe, très aimé aussi. Et voilà, cette nouvelle m'a énormément attristé. J'ai aussi eu l'occasion de le connaître personnellement. Donc j'ai tout de suite pensé lui dédier mon album. C'est cet album. Et le titre de cet album fait référence à un de ses poèmes, Rita. J'étais aussi un homme qui aimait beaucoup les femmes. J'ai pensé que cette Rita, qui en fait, ce poème parle d'une histoire d'amour réelle qu'il a eue avec cette femme, donc. Et j'ai imaginé que cette femme ne pouvait avoir que des yeux renversants, d'où le titre de Astounding Eyes of Rita.
C'est pour ça que vous le mettez dans votre livret, vous inscrivez le poème.
En fait, c'est l'éditeur du disque, le producteur, qui a eu l'idée de reprendre le poème, la traduction anglaise du poème.
Justement, à propos de cet éditeur, qui est un éditeur très 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 connu, ECM, qui fête ses 40 ans cette année, quelle est votre relation avec Manfred Escher et le label? Comment vous concevez votre créativité, votre... envie de créer un disque à tel moment et de réunir des personnes de différents horizons?
Ça va faire maintenant près de 19 à 20 ans que je collabore avec ECM. En fait, j'ai commencé à enregistrer mon premier disque, est paru chez ECM. Donc nous en sommes maintenant au 9e album. Donc ça veut dire que la relation est bonne et que c'est une collaboration très importante. Bien sûr, c'est un label... important de la musique, mais la relation que les musiciens ont avec le producteur Manfred Escher est aussi très importante, parce que c'est quelqu'un qui est intimement lié au processus de création. C'est une relation très stimulante du point de vue artistique. C'est quelqu'un qui a des doigts et des oreilles en or, puisqu'il est là pendant l'enregistrement, il participe à l'enregistrement, et donc c'est une présence très stimulante pour moi en tout cas.
Justement, est-ce que c'est votre collaboration ou c'est vous qui avez envie de travailler avec ce label pour justement vous ouvrir à d'autres
Si vous voulez, cette envie de jouer avec des musiciens de jazz, avec des musiciens venus d'horizons divers, cette envie est venue depuis que j'étais adolescent en fait. Au début, j'étudiais la musique classique et disons arabe. C'est à cette musique que j'ai voulu me consacrer au début. Puis quand j'ai commencé à composer, à un moment donné où j'ai commencé à découvrir des musiques différentes et à apprécier des musiques très différentes, j'ai eu une envie irrésistible, je dirais, de rencontrer des musiciens indiens, des musiciens de jazz. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a poussé à venir à Paris au tout début des années 80. À l'époque que j'avais commencé à enregistrer des musiques de films, puisque certains cinéastes tunisiens m'avaient proposé de composer la musique de leurs films, des documentaires ou même des longs-métrages. C'était à l'époque à Paris. C'est à ce moment-là, tout début des années 80, que j'ai commencé à faire ce genre de rencontres, je dirais. Et j'ai connu aussi le label ECM, des artistes qui travaillaient avec le label ECM, que j'aimais, que j'appréciais, et c'est en fait moi qui frappais à la porte d'ECM et qui a envoyé un enregistrement à ECM. Donc Manfred Eicher ne m'a pas particulièrement poussé à jouer avec des musiciens de jazz. D'ailleurs, le premier disque qui est paru est un disque que j'ai fait avec des musiciens tunisiens. Le deuxième est un disque avec des musiciens turcs et tunisiens. Mais c'est vrai que il a pu favoriser certaines rencontres, comme celle avec Yann Garbarek, par exemple. Ce disque a été une rencontre initiée un peu par Manfred Eicher. Mais sinon, pour les autres disques, moi, je suis quelqu'un qui ne planifie pas l'instrumentation. J'attends d'abord de voir quelle est la musique qui résonne en moi, qui surgit. Je travaille un peu d'une manière intuitive. D'ailleurs, je mets beaucoup de temps pour me décider pour les musiciens. C'est vrai que Manfred Met parfois peut me suggérer des choses parce qu'il connaît bien ma musique et je lui parle un peu de mes besoins et souvent il est de très très bons conseils j'ai moi-même besoin vraiment de il y a un tas de musiciens avec qui je souhaiterais jouer ou j'aurais aimé jouer mais c'est la musique qui surgit qui en fait me donne l'idée de l'instrumentation et me dirige vers tel ou tel musicien.
En fait, parce que selon vos différents disques, comme vous le dites, vous avez joué avec des Tunisiens, des Turcs, là vous avez un Suédois, un Allemand, un Libanais. Quel est votre processus de création en fait? Qu'est-ce qui vous donne envie à un instant T de vous dire je vais me lancer dans mon nouveau disque?
Au début, j'essaye de laisser le plus librement cours à mon inspiration, c'est-à-dire que dans la vie, moi, je suis quelqu'un de plutôt organisé, même un peu maniaque, si vous voulez. Donc, je suis quelqu'un qui anticipe, qui a tendance à planifier, etc. Et la musique est vraiment est mon espace de liberté. Et donc, c'est la chose dans laquelle je n'aime pas avoir de contraintes, même par rapport à moi-même. C'est-à-dire que... et puis, c'est bien de se surprendre aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, il n'y a pas une autre manière de se surprendre que de se laisser aller. Donc, je me laisse aller et je commence à travailler sur des, au gré de l'inspiration, au gré de... Sur des, ça commence par des fragments, des esquisses, des choses comme ça qui sont un peu disparates au début, qui ont même parfois tendance à aller dans tous les sens. Donc je ne travaille pas d'une manière, je suis plutôt quelqu'un d'intuitif et j'ai plutôt tendance à laisser penser, à laisser passer, à faire d'abord passer la pensée par les sens et par l'émotion. Le travail de construction quotidien, une fois que j'ai choisi, si vous voulez, les idées desquelles je vais partir, c'est là où vient un peu le travail de table, de réflexion, de construction et de déconstruction. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille, sans idée précise de départ. Comme disent un dicton, j'ai plutôt tendance à... je crée mon chemin en marchant.
Au moins, on va faire quelque chose d'extrêmement profond. Il y a une temporalité qui n'est nulle autre pareille. Est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Ça, je suis vraiment incapable de le dire. Qu'est-ce qui me pousse ? Ce sont probablement des choses qui viennent un peu de l'intérieur, qui sont en moi, que je n'arrive pas forcément à... En tout cas, moi, j'ai tendance à travailler, contrairement aux peintres qui superposent les couches, moi, j'ai plutôt tendance à en mettre plus et ensuite à enlever et à dépouiller. J'ai tendance à aller vers les choses un peu épurées. Pour l'instrumentation, moi j'écris, je commence à travailler sur des thèmes. Et ce sont les thèmes qui me suggèrent l'instrumentation. Alors je mets beaucoup de temps, j'hésite beaucoup en fait, parce que sur ce disque notamment, j'ai mis presque une année et demie à me décider définitivement pour l'instrumentation. Parfois j'ai l'impression que ça va bien marcher pour une pièce et pas pour une autre. En plus, quand on a un souci d'unité, on ne peut pas faire... Parce que la tendance aurait été que je pars dans plusieurs directions. J'aurais été tenté peut-être de faire une instrumentation particulière pour chaque pièce, puisque chaque pièce finit par avoir une identité propre et une sonorité propre. Mais comme j'ai en même temps un souci d'unité, donc c'est parfois difficile de trouver justement cette interprétation, mêmes instruments pour toutes les pièces que je compose. J'hésite aussi beaucoup... choisir tel ou tel instrument. C'est pas seulement l'instrument, c'est aussi la sensibilité de l'instrumentiste. Parce que, en plus, j'ai créé une musique, je me rends bien compte, moi je viens d'une tradition musicale arabe, mais ma curiosité pour différents styles de musique a sans doute fait en sorte que je dois être aussi traversé par des influences. Donc j'ai besoin des deux univers, européen, arabe, moyen-oriental. Et c'est pas évident de trouver des musiciens qui peuvent en même temps avoir toutes ces sensibilités. Donc c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une chose évidente pour moi dès le départ. Donc c'est vraiment la musique et l'identité des pièces qui me suggère et qui finit par m'imposer. Vous savez, c'est comme le casting, vous écrivez dans le cinéma, vous écrivez pour un personnage dans toute sa complexité, etc. Et c'est ce choix de l'acteur. C'est une étape importante puisque c'est lui qui va incarner toute cette complexité ou toutes ces facettes. Donc c'est un choix toujours difficile. C'est lui qui va prendre en charge ce qui a été écrit, et le transmettre. Je mets du temps pour arriver à me décider.
Et vous parlez en quelle langue ?
Avec les musiciens ? Ça dépend. Là, présentement, je viens de sortir, disons, d'un projet, d'une expérience qui a duré 6 ans avec François Couturier, Jean-Louis Matinier, qui sont des musiciens français. Donc là, je parlais en français. Là, dans le groupe, nous avons un musicien suédois qui vit en Suisse, mais qui parle anglais, et un musicien Björn Meyer, la basse électrique, et à Klaus Schesing, qui est allemand, mais qui vit en Autriche. Et il y a un joueur d'arbouka et de bendir, Khaled Yassine, qui est libanais. Donc on parle plutôt anglais dans le groupe.
Pouvez-vous nous parler un petit peu de Alice Itry, la personne qui vous a éduqué ou après Loud?
Alors Alice Itry, c'est d'abord un très très grand musicien tunisien, un très grand joueur de oud. Il est malheureusement décédé maintenant il y a une année et demie. J'ai eu cette grande chance d'être son élève, d'abord au conservatoire. Ensuite, quand j'ai terminé mes études au conservatoire, je sentais bien que j'avais encore besoin d'apprendre, j'avais encore énormément de choses à apprendre de lui, donc je suis allé frapper à sa porte, chez lui, pour lui demander de continuer à me donner des cours. C'était à l'époque où j'avais décidé de me consacrer à la musique. J'ai passé une assez longue période à aller presque quotidiennement chez lui. Au début, c'était un cours par semaine. Ensuite, il m'a dit « Bon, allez, tu peux venir demain ». Et finalement, après nous ont rejoint deux amis musiciens. C'est devenu comme une espèce de salon de musique, en fait. C'était entre 17 et 23 ans. Ça, c'était une période essentielle dans ma formation parce que je me suis bien rendu compte que ce qu'on étudiait au conservatoire était trop superficiel et trop... La musique arabe est comme la musique indienne, comme le jazz, une musique où l'écoute est très importante. Cet échange avec le maître et le professeur sont très importants. Et j'ai eu cette chance qui m'a permis sans doute d'approfondir les choses.
Au début des années 80, quand vous arriviez en France, j'ai cru comprendre que vous étiez un petit peu déçu de la réception. Vous étiez déjà avant-gardiste dans le sens où vous aviez envie de rencontrer les jazzmen pour collaborer avec eux, pour rencontrer vous, votre culture et l'ouverture sur le monde avec le jazz. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ceci ?
Écoutez, moi je suis venu à Paris parce que pour un tas de raisons, parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma, qui avait envie aussi de découvrir beaucoup de choses en musique, de rencontrer aussi des musiciens, parce que à Tunis, on recevait de temps en temps des musiciens, mais j'avais pas l'occasion de rencontrer les gens. Et voilà, j'écoutais la musique à travers les disques, ou je lisais des revues. Donc pour moi, était Paris la capitale cosmopolite par excellence, et donc je me suis donné à cœur joie pour découvrir un tas des choses. Je m'intéressais à l'art plastique, au théâtre, donc ça a été extraordinaire de ce point de vue. Du point de vue de la musique, je ne peux pas dire que j'ai été déçu, mais j'ai débarqué à un moment où les choses étaient encore très cloisonnées. C'est-à-dire, c'est pas très très loin finalement, mais à cette époque, j'ai une image de l'IRCAM avec les studios de musique contemporaine et les caves de jazz environnantes, mais ça ne communiquait pas. Il y avait... Un des rares musiciens d'ailleurs à l'époque qui était en même temps musicien classique et qui était dans le milieu du jazz, c'était Michel Portal. J'ai vu que c'était assez cloisonné. Alors, à plus forte raison pour un musicien comme moi qui vient de ce qu'on appelle les pays du Sud. Alors, les débouchés qui existaient, c'était ou bien jouer dans les cabarets orientaux qu'il y avait à l'époque bien sûr, ça ne m'intéressait guère. Et sinon, alors, la programmation à l'époque, ou l'intérêt des programmateurs et des maisons de disques était plus, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, les maisons de disques avaient leur section ethnique. Donc, ils demandaient aux musiciens qui venaient de Mauritanie ou d'Égypte de jouer le répertoire de leur pays. Ce que, personnellement, je savais faire, ça ne m'intéressait pas de faire ça. Donc, à l'époque, je ne voulais jouer que mes compositions, je ne voulais que jouer que la musique que je faisais. Donc, j'ai été un peu en décalage par rapport à tout ça. Mais cela n'empêche que j'ai pu faire de belles rencontres. Et puis, comme je composais des musiques de films à l'époque, c'est moi qui suis allé vers les gens. Donc, c'est comme ça que j'ai téléphoné à des musiciens comme François Janot, comme Jean-Paul Séléa, François Couturier et Jean-Charles Capon. Et je faisais des musiques pour le cinéma ou le théâtre. Et donc, j'ai commencé à contacter des musiciens venant d'horizons divers, des musiciens indiens, donc des musiciens turcs. Voilà, et je me suis donné un peu à cœur joie pour créer moi-même, comme j'avais en plus les réalisateurs avec qui je travaillais, me donner une espèce de carte blanche et de liberté totale. Donc je ne me suis pas privé de faire appel à tous les musiciens avec qui j'avais eu en fait envie de jouer.
Vous avez collaboré avec Béjart lors de votre séjour à Paris, c'est ça ?
Oui, ça c'était une... je venais à peine de débarquer à Paris. J'ai reçu un coup de fil, on m'a dit « Maurice Béjart souhaite vous rencontrer ». Et moi, c'est vrai que je connaissais bien sûr Maurice Béjart et j'avais eu l'occasion de le voir à Tunis. Et je m'intéressais beaucoup à la danse. Et donc effectivement, je pensais que c'était une plaisanterie à la limite. Effectivement, j'étais allé le voir. J'ai rencontré un monsieur très charmant, très, très ouvert, très... très sensible, très simple. Et il était à la veille, ou quelques jours avant la première de son spectacle Mare Nostrum au Palais des Sports. Et il avait eu l'idée, je ne sais pas comment, il m'a proposé de jouer sur scène chaque jour pour un pas de deux. Voilà, donc j'ai vécu cette magnifique expérience. J'étais très très jeune à l'époque et je venais à peine de débarquer à Paris. C'était pour moi comme un rêve.
Le théâtre, le cinéma, vous en parlez souvent. Je sais que vous avez réalisé un film. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à vous-même ne plus prendre l'instrument, entre guillemets, qui est la musique, mais l'instrument qui est une caméra ?
Cette histoire est venue vraiment d'une manière à laquelle je ne m'étais pas du tout préparé et que je n'avais pas du tout planifié, loin de là, parce que c'est survenu à la suite de la guerre qu'il y a eu entre le Liban et Israël en 2006. Moi, j'étais à Tunis à l'époque, j'ai vécu ça d'une manière très douloureuse parce que ce Liban que j'avais vu au milieu des années 90, complètement, Beyrouth était complètement détruite après la guerre civile, l'invasion israélienne. Donc j'ai vu ce pays se construire petit à petit. C'est un pays dans lequel je vais assez régulièrement me produire, j'y ai des amis, etc. Donc, et puis tout d'un coup, cette guerre très violente, somme toute, qui se déclenche, et qui a duré un mois. J'ai eu envie, au lendemain de la guerre, de partir vers Beyrouth. Je ne savais pas pourquoi, je ne me sentais pas retourné dans mon atelier, travailler comme si de rien n'était. Et puis est venue cette idée, un peu, qui m'a paru à moi-même très saugrenue, d'aller à Beyrouth et d'aller interviewer des gens. Et c'est sur cette envie que s'est greffée l'idée de faire un film. Et donc, je suis allé pour interviewer, vous savez, pendant la guerre, on écoute les reportages des politiciens, des analystes militaires, etc. Mais on entend peu les artistes. Et moi, j'avais envie d'entendre et mes amis et des gens. Je suis allé interviewer des écrivains, des journalistes, des intellectuels, des artistes libanais de tout âge, de toute confection, pour essayer de comprendre comment ils ont vécu cet événement dramatique. Avec une petite équipe. Et donc, nous avons quitté... entre le temps où j'ai eu l'idée ou le temps où j'étais en train de tourner, il n'y avait même pas 10 jours. Donc, on a débarqué à Beyrouth le lendemain de l'ouverture de l'aéroport. Vous savez que pour le cinéma, on a cassé la tirelire parce qu'il faut... L'intérêt, c'était d'aller à vif, et d'aller interroger les gens, d'aller parler avec les gens à vif, non pas d'attendre, de réunir les... Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce film et que je me suis lancé, je me suis jeté un peu à l'eau. Mais ça a été une expérience magnifique parce que j'ai, dans le sens, et humaine, et parce que j'étais content d'être allé et d'avoir fait ce film, et l'expérience du cinéma a été passionnante pour moi.
En fait, vous habitez toujours en Tunisie. Il y a eu l'élection de Ben Ali, enfin la réélection de Ben Ali il y a peu de temps. En France, il y a eu Besson qui a sorti l'idée de l'identité nationale. En Suisse, il y a eu un référendum là, sur les minarets. Où vous vous situez? Est-ce que vous êtes dans une culture méditerranéenne?
Sincèrement, je comprends pas trop toutes ces choses. Bon, là, vous parlez de plusieurs choses à la fois sur des sujets en même temps larges et différents. Moi, je pense qu'il y a pas des phénomènes de récupération politique qui sont sans doute à viser un peu électoraliste. C'est tellement difficile de parler d'identité. Je pense que l'identité est quelque chose qui... D'abord, ce n'est pas aux politiques de parler, ils sont vraiment les moins bien placés pour parler de l'identité. Et en plus, l'identité est quelque chose qui se réinvente chaque jour. Chaque film qui sort sur les écrans, chaque Français qui sort sur les écrans parisiens, chaque pièce de théâtre, chaque livre, chaque découverte, chaque invention, créer et recréer, c'est l'identité d'un pays. Et aujourd'hui, en plus, nous vivons dans un monde où nous nous approprions l'identité des autres. Moi, quand je regarde un film de Bergman, il fait partie de mes racines, il fait partie de mon identité. Alors, ces politiques qui viennent pour essayer de dire qu'est-ce qui est tunisien, ou qu'est-ce qui est français, ou qu'est-ce qui ne serait pas. C'est pour moi quelque chose de complètement surréaliste. Mais on sait bien que tout ça ne sert qu'à agiter peut-être certaines peurs de l'autre. Pour moi, c'est assez malsain. Bien sûr, on peut discuter de tout. Hein. Je verrais d'un très mauvais œil si, dans mon pays ou dans n'importe quel pays, les politiques se mettaient à vouloir définir l'identité d'un peuple. Et surtout ce lien qui me dérange un peu. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup. Si la guerre au Liban est une guerre qui m'a beaucoup touché et peiné, c'est parce que le Liban est pour moi un pays de diversité. Et je suis très attaché à l'idée de diversité. Parce que je pense que la diversité, c'est la plus grande richesse. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la culture arabe, l'âge d'or de la culture arabe, c'est un moment où il y avait des juifs, des chrétiens, des savants, des philosophes, juifs et chrétiens, et musulmans, et des artistes qui venaient du monde entier dans les plus grandes cours de Bagdad et de Séville. L'Europe et l'Occident aujourd'hui a une richesse extraordinaire parce qu'ils se réapproprient des cultures et l'Occident a eu cette capacité de s'imprégner de cultures tellement différentes et c'est une grande richesse. Je suis très attaché à l'idée de diversité. Je pense qu'une culture, plus une culture est diverse, et plus elle est forte, plus elle est créative. Moi, cette manière que j'ai eue d'aller vers d'autres choses, parce que j'ai eu le sentiment que ça me vivifiait, ça stimulait mon inspiration, Mais à aucun moment j'ai eu le sentiment de renoncer à mes racines. Au contraire, c'est une manière d'enrichir mes racines. Donc aller vers l'autre cet échange. Quand j'étais adolescent, j'étais dans un lycée, au lycée Carnot, en face de moi il y avait le conservatoire. Je veux dire, j'avais des goûts très éclectiques. Pas seulement des goûts musicaux, mais comme je vous disais tout à l'heure, vers des expressions artistiques diverses. Et je ressentais ça comme une grande richesse. C'est quelque chose qui m'apportait beaucoup.
Philosophique de choisir un hommage à Mahmoud Darwish, grand poète arabe, mais issu de la Palestine.
Ben, je rends hommage au grand poète qu'il était, parce que, comme je vous disais, j'aimais beaucoup sa poésie. C'est aussi quelqu'un, un poète emblématique, il a donné un souffle nouveau à la poésie arabe. Il était aussi adulé et aimé. C'est un disque que j'ai dédié au poète, que je dédie à l'homme, au palestinien qu'il était, et au grand humaniste qu'il était, et aux rebelles aussi. Aux rebelles aussi. Dans son propre camp. Il représentait pour moi un peu l'âme du peuple palestinien. Vous savez, les artistes, les poètes, il était un peu à l'image d'Edouard Saïd, mais dans un autre registre. Il faisait partie de ces gens qu'on peut écouter, vous savez, l'image du peuple palestinien, surtout après le 11 septembre, il y a beaucoup de confusion entre... Et Mahmoud Darwish fait partie des voix... Parce qu'il avait une pensée, parce qu'il avait aussi une attitude très respectable et humaniste, politique et humaniste et ouverte. Il était une voix qui était écoutée en dehors, qui était écoutée. Et c'est important pour les Palestiniens. Et puis j'adorais comment sa manière de parler, son humour, sa pertinence. C'est quelqu'un d'important.
Je trouve ça extrêmement poétique, vos choix de titres. Tous vos titres de chansons de cet album ou des albums précédents sont extrêmement poétiques. Comment vous les trouvez? Ça vient d'où?
Je cherche, en fait, je ne décide jamais avant. J'attends que la musique naisse, parce qu'elle naît une fois qu'elle est interprétée, parce que là, elle prend sa forme. Vous savez, la musique, elle est au début sur le papier, dans votre tête, etc. Et puis, vous répétez, et puis elle prend sa forme un peu définitive quand vous l'enregistrez avec les musiciens, etc. Donc, c'est là où l'univers se définit, etc. Et j'essaie de construire une histoire avec ça. J'essaie de laisser les portes ouvertes à l'imagination des gens. Et parfois, les titres sont comme un poème, d'ailleurs. C'est-à-dire que la succession des titres, elle fonctionne un peu comme un poème. Oui, j'aime bien, je prends un certain temps pour construire ça, en tâtonnant, en réécoutant la musique. Mais c'est drôle, hein, parfois vous pensez, c'est pas le fait d'avoir un beau titre ou pas un beau titre ou un titre poétique. Il y a, vous savez, le titre pour une pièce, c'est un peu comme la musique par rapport à l'image. C'est-à-dire que la pièce prend le titre ou il le rejette. C'est très, très drôle. Même la photo de couverture. Il faut que... parfois, j'imagine que le titre est bien, mais quand je réécoute la pièce, il y a comme une espèce de rejet, en fait.
Thank you.
entendre le morceau phare du dernier album d'Anouar Brahem après cet entretien mené par Hugues Blondet. Et maintenant, séquence littérature et débat d'idées, un autre entretien mené cette fois-ci par Thierry Fabre avec José Lanzini, l'auteur du récit « Les derniers jours d'Albert Camus ».
José Lanzini, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur d'un livre, « Les derniers jours de la vie d'Albert Camus », que j'ai eu le grand honneur de publier dans la collection bleue de chez Actes Sud. Qu'est-ce que vous avez cherché à raconter à travers ce livre sur Albert Camus ?
Alors, originellement, je voulais parler du silence dans la vie de Camus, dans l'œuvre de Camus, et je ne suis pas essayiste, je ne suis pas universitaire, et quand je m'en suis ouvert à vous, justement, on a cherché, et puis vous m'avez dit, c'est pas tout à fait votre style de faire un essai, donc essayez plutôt de raconter ce qui s'est passé. Alors raconter, comment raconter ça? Raconter le silence, c'est difficile, et on en est venu à discuter, et à se dire que ce qui serait bien, c'est d'évoquer les derniers jours de la vie de Camus, où justement, il prend le parti d'aller rejoindre la capitale en voiture, donc dans un univers clos, et là ce serait favorable justement à parler du silence dans l'œuvre de Camus et du silence tout court.
Donc c'est à la fois une dimension imaginaire puisque vous racontez ce qui traverse l'esprit de Camus dans cette voiture, dans cette fameuse Facel Vega de Gallimard qui elle va la ramener de Lourmarin hein, jusqu'aux abords de Paris et au fond l'idée ça a été de raconter ce qui se passe jusqu'à ce 4 janvier 1960 et essayer d'expliquer, de donner à comprendre la figure de Camus qui à ce jour est restée assez trouble.
Oui, alors c'était pas seulement virtuel, parce que j'avais beaucoup d'éléments concernant ce voyage par les biographes de Camus, par des témoignages que j'avais obtenus durant les 20 ans qui se sont écoulés.
Et il faut dire que vous êtes, ce qu'on peut appeler un vieux camusien.
Oui, exactement. Oui, je suis un vieux camusien puisque je m'intéresse à Camus depuis une vingtaine d'années, et donc j'avais beaucoup d'éléments biographiques, hein, des éléments avérés. Le problème était, au-delà de ces éléments avérés, de ne pas faire... on risquait très vite de tomber dans le people, quoi, j'avais pas envie de faire ça. Essayer de mettre Camus en situation, et là j'avoue qu'il fallait une petite empathie, hein, à laquelle j'ai cédé en essayant de prendre pour Camus en tous les cas, d'imaginer à travers certaines situations que revivait Camus pendant ce voyage, comment il pouvait se comporter. Et là, on a décidé, vous et moi d'ailleurs, d'intégrer à l'intérieur du factuel, de l'avéré, des citations de l'œuvre de Camus qui colleraient avec la situation du moment.
Oui, qui donne un peu la couleur de ce moment et de l'œuvre de Camus. Mais justement, il ne s'agit pas du tout de quelque chose d'anecdotique, mais d'essayer par petites touches d'aller en profondeur pour faire sentir au fond... l'émotion et l'imaginaire de Camus.
Oui, tout à fait, parce qu'on a souvent tendance à parler de Camus comme philosophe, comme romancier, ce qu'il est, c'est évident, mais avec des termes de philosophe et de romancier, et on en oublie un peu ce Camus de chair, ce Camus de sens, ce Camus de cœur, ce Camus de silence, ce Camus dont j'avais envie de dire l'existence, en fait, pour le faire peut-être... découvrir ou redécouvrir sous un autre aspect.
Alors justement, une des façons de faire découvrir Camus sous un autre aspect, c'est peut-être de parler de Camus l'Algérien, puisqu'on a eu tendance un peu à travers les événements politiques de gommer cette dimension-là. Or, vous avez fait il y a quelques mois un long séjour en Algérie sur les traces de Camus, mais pour parler de Camus, et notamment à l'occasion de la parution de ce livre, « Les derniers jours de la vie d'Albert Camus aux éditions Barzard, qui paraît en même temps donc, en Algérie et en France. Mmh. Et donc, c'est peut-être intéressant de parler de Camus l'Algérien, de Camus tel qu'il est reçu aujourd'hui en Algérie, et de toute cette dimension qui fait encore débat et même polémique.
C'est d'autant plus intéressant que j'ai gardé des racines très profondes en Algérie et que j'y suis retourné depuis l'indépendance assez régulièrement. Que, dans un premier temps, je n'ai pas fait de conférence sur Camus parce que personne ne voulait prendre le risque de parler de Camus à l'époque. Mais au cours des 10 dernières années, j'ai senti que Camus restait tout de même ce qu'on appelait le traître, voire le renégat. Camus était rejeté, et pour des raisons un peu confuses, pour des raisons qui appartiennent à l'histoire, à la post-indépendance, pour des raisons peut-être de rassurance aussi. Les gens se disaient, il nous faut quelqu'un qui soit responsable de la situation. Bon. Et puis, j'ai vu que les choses évoluaient, et alors, il y a eu un changement radical lors de ces dernières séries de conférences qui se sont faites il y a 2 mois, où on est allé un peu dans toutes les villes d'Algérie, et où on a senti que Camus n'était plus ce renégat, ce relégué, et on a entendu même des gens nous dire, comme le directeur du théâtre de Béjaïa, Camus est pour nous un frère. Et quand on parle de l'étranger, c'est toujours ce monsieur qui s'exprime, quand on parle de l'étranger, pour nous c'est une guerre fratricide qui préfigurait non pas la guerre d'indépendance, mais les années noires de 90 à 2000 et quelques. Donc Camus avait changé. On a vu quelqu'un d'autre, une fois une demoiselle, parce que les gens autour de nous discutaient de Camus et disaient « Oui, mais Camus, l'étranger, Meursault, Camus, c'est Meursault. » Et la demoiselle est intervenue, elle devait avoir 18 ans. Et elle dit « Mais on dit toujours Camus et Meursault. Et après tout, si Camus, c'était l'arabe ?»
Oui, ceci étant, c'est un débat qui revient souvent sur la table. La place de l'autre, la place de l'arabe, de l'algérien arabe, du musulman, est assez limitée dans l'œuvre de Camus, pour ne pas dire absente. Et on peut dire à ce moment-là qu'on a traité au fond Camus d'écrivain colonial.
Tout à fait, mais c'est un peu aller vite dans la mesure où il faut lire aussi le Camus journaliste. Et alors Camus journaliste, de l'âge de 19 ans à la fin de ses jours, n'a eu de cesse de dénoncer les excès du colonialisme, les risques que ça comportait, jusqu'à dire après 1945, et ce qu'on a appelé pudiquement les événements de Sétif, il a écrit dans Combat, « Je lis dans un journal du matin que 80% des Arabes veulent devenir français, je dirais plutôt qu'ils voulaient le devenir, mais qu'ils ne le veulent plus. » Donc en 1945, il lance quand même un cri d'alarme.
Oui, c'est un des premiers qui, en tant qu'intellectuel et journaliste, est sensible à ce qui se passe en mai 1945, moment où on fête la libération de la France, et donc la répression extrêmement violente, qui est peut-être le moment certains historiens commencent à le dire aujourd'hui, des véritables déclenchements, le premier élément de déclenchement de la guerre d'Algérie. Camus, l'Algérien, c'est aussi peut-être à travers la fameuse polémique au moment du prix Nobel, cette interpellation qui a eu lieu, et on réduit toujours si j'avais à choisir entre la justice et ma mère, je choisirais ma mère. Peut-être, José Lundy, serait opportun que vous nous racontiez un peu plus de ce qu'il en est de cette histoire, parce que vous avez enquêté à l'occasion de ce livre sur celui qui était un jeune homme au moment de la remise du prix Nobel et qui donc a interpellé Camus, comment ça s'est passé, et qu'on aille un peu plus loin pour sortir justement des lieux communs portés par cette polémique. José Lanzini.
Oui, et ça commence il y a une trentaine d'années quand j'écris L'Algérie de Camus. Là, je suis en contact avec Kateb Yassine, à qui je demande s'il veut me faire un petit commentaire sur l'œuvre de Camus, sur ce qu'il pense de Camus. Kateb Yassine, qui était même le grand romancier, le dramaturge algérien.
Et marqué d'ailleurs par les massacres de Sétif.
Sétif, totalement. Et Kateb Yassine hésite, ce qui est déjà significatif. Il faut que je rentre 2 fois, 3 fois, 4 fois pour qu'il m'envoie un petit texte sur Camus. Donc, c'est que c'était pas aussi évident que ça à dire. Bon, et au bout d'un moment, il me dit, écoutez, de toute manière, le mieux, c'est de rencontrer ou de décrire au jeune homme qui a eu cette altercation avec Camus, qui a eu cette fameuse phrase qui est sortie. Je prends contact avec ce jeune homme, qui à l'époque avait déjà 50 ans quand même. Et puis, ce jeune homme me répond, monsieur, l'Algérie est morte, Camus est mort, je n'ai rien à vous dire. On s'arrête là.
Et il était à ce moment-là en Suède.
Il habitait Stockholm. 30 ans après, je fais ce bouquin et je me dis que quand même, il faudrait un peu avoir des éléments pour resituer Camus dans son contexte. C'est quand on voit un Camus qui est mal à l'aise, qui doute quand il remonte sur Paris, pourquoi il y a eu toutes ces altercations, toute cette mise au pilori par l'intelligentsia. Donc je me dis, ce serait bon que je retrouve ce jeune homme pour savoir comment ça s'est passé exactement. Je cherche dans sur Internet, j'arrive à trouver le jeune homme, je vais vers lui et je commence à discuter. Le jeune homme à l'époque avait déjà 80 et quelques années et j'arrive à discuter avec lui et ce jeune homme m'explique ce qui s'est passé. D'abord, c'est pas un nationaliste comme on l'a dit souvent, c'est un jeune homme qui a quitté l'Algérie et sa Kabylie natale pour aller en Allemagne, en Suède, dans les pays de l'Est.
En fait, il est passé là par hasard.
Totalement, totalement. Il passe, donc il était Stockholm, il est installé là-bas, il passe dans la rue, il voit un attroupement, il demande ce qui se passe, on lui dit c'est Camus qui donne une conférence de presse. Ce faisant, il dit est-ce qu'on peut rentrer ? On peut rentrer, il entre, et la conférence de presse tire à sa fin, il s'avance, et
il interpelle
Camus avec beaucoup de dureté. Hein. Et Camus lui demande, monsieur, quel âge avez-vous ? Et là, il se blesse, pensant que Camus le prend pour un blanc-bec, sans doute, alors que Camus certainement veut le situer dans l'histoire. Il repose la question, Camus lui dit, monsieur, quel âge avez-vous ? Ça repart de plus belle, et Camus, là, lui dit, écoutez, monsieur, je ne me suis jamais adressé à un arabe comme vous s'adressez à moi aujourd'hui, et je peux vous dire que beaucoup de vos corréligionnaires me doivent d'être en vie. C'est vrai que Camus était intervenu auprès de De Gaulle pour sauver des gens de la guillotine. Et on en reste pratiquement là, et Camus, excédé, et il faut bien le penser, excédé, c'est pas un mot qu'il a écrit, c'est pas une phrase qu'il a pensée, dit, écoutez, monsieur, j'aime la justice, mais si j'avais choisi entre la justice et ma mère, je choisirais d'abord ma mère. Et vous-même, quand vous me posez la question, vous avez oublié l'adverbe « d'abord », qui est quand même essentiel. Donc, ce faisant, on peut comprendre que Camus est choisi de cette manière, dans la mesure où sa mère vit dans le quartier pauvre, à Bellecour, près d'Alger, où la guerre se fait de plus en plus dure, et où il craint qu'elle soit blessée, voire tuée un jour ou l'autre. Bon. Ce faisant, ce n'est pas terminé. Le jeune homme rentre chez lui, ulcéré, écœuré par Camus. 3 ans se passent. Au bout de 3 ans, il tombe par hasard sur Actuel 3. Actuel 3, qui est le recueil des principaux textes écrits par Camus en tant que journaliste sur l'Algérie. Et là-dedans, bien sûr, il trouve la misère de la Kabylie. Et là, le Kabyle qui est se rend compte de sa bévue, il se dit « mais c'est pas l'homme que j'ai agressé. C'est extraordinaire. Je ne connaissais pas Camus, je ne connaissais pas ce Camus-là. » Il ne cesse de retrouver Camus et de s'excuser. Il connaît Jules Roy, il descend à Vézelay, en train, il prend le train, il va à Vézelay, il va voir Jules Roy, il dit « voilà ce qui s'est passé, il faut que je rencontre Camus pour m'excuser ». Et Jules Roy le regarde, les yeux ronds, et dit « mais Camus est mort depuis un an ». Et là, cet homme va porter la culpabilité d'un propos qui a été utilisé notamment par l'intelligentsia pour masquer tout le reste de l'œuvre. Et cet homme va descendre jusqu'à l'eau marin, va déposer un bouquet de fleurs sur la tombe de Camus et va parler avec lui. Mais ce qu'il a dit, je ne sais pas. Ce que lui a répondu Camus, je ne sais pas non plus.
C'est beau comme de l'antique.
C'est beau comme de l'antique. Et en même temps, ça illustre parfaitement le malentendu autour de Camus et les malentendants de Camus.
Alors revenons un peu justement sur ce malentendu, parce que dans votre périple pour présenter ce livre en Algérie, au fond, vous avez entendu plusieurs personnes, dont d'ailleurs le président Bouteflika, dire qu'au fond, en préférant sa mère, Camus avait été un vrai méditerranéen, un vrai Algérien.
Tout à fait. C'est curieux parce que ça se passait en même temps que mon petit périple en Algérie. Un journaliste d'El Watan pose la question à Bouteflika et lui dit « mais qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?» Et Bouteflika répond ce que vous avez dit. Si il a prononcé cette phrase, ça prouve qu'il est des nôtres, en fait. Et je me rappelle, ça m'a rappelé une phrase du poète de la Casbah, qui est décédé aujourd'hui, à qui, il y a une trentaine d'années, j'ai demandé « mais qu'est-ce qu'il pensait de cette fameuse phrase ?» Il m'a répondu « écoutez, chez nous, dans le Coran, il y a une sourate qui dit « le paradis est au pied des mers et la justice aussi ».
Donc, pour vous, Camus est vraiment un Algérien. Pourtant, on peut remarquer que la place des Algériens eux-mêmes, de ce qu'on appelait dans ce temps colonial, l'arabe est quand même assez malmené ou est absent. Alors, il y a des polémiques extrêmement violentes, il y a des textes, je pense à un texte assez violent d'Edouard Saïd, comme Camus, figure coloniale. Vous êtes en même temps critique par rapport à un certain nombre d'éléments qui sont dans l'œuvre de Camus ou, et parfois qui ne figurent pas dans l'œuvre de Camus, je dirais presque en creux, José Lenzi.
C'est-à-dire, voilà, exactement, ils sont un peu en creux, ils sont en opposition comme une photo en noir et blanc, donc il faudrait aller chercher le négatif, donc il y a aller chercher loin. Ceci étant, il y a quand même des nouvelles, je cite de mémoire, par exemple comme Lot, il y a une nouvelle comme La femme adultère, il y a une nouvelle comme Le renégat, dans lequel l'arabe est là, et n'a pas le mauvais rôle, hein, si je peux dire, pour faire court. Cela étant, il est évident que Camus parle beaucoup, défend beaucoup plus l'arabe, pardonnez-moi, c'est la terminologie de l'époque, défend beaucoup plus l'arabe en tant que journaliste. Cela étant, c'est vrai qu'on peut encore aujourd'hui reprocher à Camus de ne pas avoir suffisamment donné de place aux Arabes dans son œuvre. Et je vais jusqu'au premier homme. Le premier homme, disait-il lui-même, c'est le premier homme sur une terre vierge. Ça veut dire tacitement que le premier homme arrivant sur cette terre ignore qu'il y a déjà des Arabes.
Alors que cette terre n'a jamais été vierge.
Ah, ça non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc il y a encore cette ambiguïté autour de Camus, mais au fond, Camus est un écrivain de son temps. Or, son temps est un temps de la colonisation.
Et ce temps est celui de la colonisation, où c'est vrai que Camus, éduqué à l'école laïque, obligatoire, croit dans des vertus de la civilisation, du grand projet colonial, quelque part, et estime que les gens qui sont là, ceux qui étaient avant lui, sont des gens intégrés, sont des gens qui appartiennent à ce monde nouveau. Et peut-être qu'il fait ellipse de ces gens parce qu'il les a déjà intégrés. Cela étant posé, je vous renvoie à des bouquins de Dib, de Guyassine, tant d'autres. C'est le contraire. Le français n'y est pas non plus.
Alors, José Lanzini, pour terminer, pourquoi est-ce qu'il est important de lire Albert Camus aujourd'hui? On en a beaucoup parlé, effectivement, à l'occasion de ses 50 ans de sa mort, le 4 janvier 1960, 4 janvier 2010. Mais au-delà de ces moments de célébration, pourquoi est-ce qu'il est important de se plonger dans l'œuvre de Camus?
Je crois qu'il est important de se retrouver dans Camus, j'allais dire, et c'est vrai, parce que quoi qu'on lise de Camus, on le comprend, c'est accessible, et surtout, on s'y retrouve. Camus, c'est une sorte de miroir, et ça c'est extraordinaire. C'est quelqu'un dont on se dit qu'on aurait aimé le rencontrer, aller boire une anisette avec lui, discuter le coup, et qu'on serait sorti un peu plus intelligent de cette discussion. Et en plus...
Dimension populaire déjà qui vous tient à cœur. Mais, c'est-à-dire que Camus était quelqu'un avec qui on pouvait aller boire une anisette et parler de football.
Mais c'est très important, parce que quelqu'un avec qui on peut faire ça, et qui est en même temps philosophe, et qui vous empêche quand même de temps en temps de vous dire « Bon, Rocher, j'en ai marre de te pousser, j'arrête. » Non. Camus, ben, il nous montre pourquoi... il faut envisager que Sisyphe peut être heureux.
C'est-à-dire qu'on peut dépasser l'absurde. Alors si vous aviez comme ça quelques textes majeurs pour vous à faire découvrir de Camus, à inviter à la lecture, qu'est-ce que vous aimeriez recommander ou faire découvrir avant toute chose, puisque l'œuvre de Camus est immense, 4 tomes de la Pléiade, donc pour certains qui vont découvrir ou redécouvrir Camus, par quoi faut-il ou commencer ou se plonger en toute urgence?
Je veux dire quasiment le premier et quasiment le dernier. C'est-à-dire le premier, c'est L'envers et l'endroit. Donc Camus lui-même disait, quand il a fait la préface pour l'édition américaine, alors qu'il était déjà au fait de sa gloire, que dans L'envers et l'endroit, il y avait tout. Et alors, dans ce midi où nous vivons, tous les gens qui vont lire L'envers et l'endroit vont retrouver de ces petites scénettes de la vie courante, vont se retrouver, vont retrouver des parfums, vont retrouver des ambiances. Quant à l'autre livre que je recommanderais, c'est La chute, parce que La chute, c'est le livre du silence, en fait. C'est un monsieur qui essaye de se justifier avec force mots parce qu'il n'arrive pas à garder le silence pour lui. Et cette espèce de justification coupable, on l'a tous connu, on l'a tous un jour ou l'autre.
Alors vous parlez du premier, l'envers et l'endroit, le dernier qui est le dernier, qui est le premier homme dont les pages se trouvaient dans la serviette d'Albert Camus, qu'on a retrouvé après l'accident de la Facel Vega le 4 janvier 1960. Il ne faut pas oublier que Camus est celui qui a donné pour titre à notre revue La Pensée de Midi, pensée qui, je crois, peut continuer à nous inspirer longtemps. Et pour en savoir un peu plus sur Albert Camus, Les derniers jours de la vie d'Albert Camus, de José Lanzini. José Lanzini, merci.
Merci à vous.
Rendez-vous de midi, une émission proposée et présentée par Thierry Fabre, qui est une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi.
Cette émission du rendez-vous de midi se termine maintenant. Vous avez pu entendre tout d'abord un entretien avec le musicien tunisien Anouar Brahem à l'occasion de l'apparition de son nouvel album aux éditions ECM, The Astounding Eyes of Rita. Et la séquence littérature et débat d'idées était cette fois-ci consacrée à la figure d'Albert Camus, figure qui nous est chère à La Pensée de Midi. C'était à l'occasion de l'apparition du roman Les derniers jours d'Albert Camus de José Lanzini, avec un entretien mené par Thierry Fabre. Merci pour votre écoute et rendez-vous au mois prochain.